pour ce quatrième épisode de la Mix Autonome, on a embarqué notre micro à Toulouse pour aller discuter avec trois DJ, Charlotte, aka Karl Froy, Macha, aka 130-01, et Julia, tantôt DJ Pecorina, tantôt Julia Anderson. Trois DJ venus jouer sur le plateau de Mille Vaches le 8 avril dernier, à la Crawl, pour la Sound Sisters, une soirée organisée avec le collectif Fossil Future. Dans cette émission, elles parleront de leurs pratiques artistiques et de leurs univers musicaux. Une heure pour une plongée au sein de leur vie de DJ et pour entendre l'importance des pratiques collectives au sein des parcours musicaux. Pour compléter cet épisode où les thèmes seront nombreux, plusieurs lectures précieuses. Riot Girls de Manon Labrie, un livre essentiel pour la scène d'aujourd'hui autour des pratiques d'hier d'un mouvement punk féministe nord-américain. Blogger Faster Stronger, un texte autour de la culture internet, écrit par Lina Abascal et paru dans le dernier numéro de la revue Audimat. Et puis, le dernier numéro du fanzine Ventoline avec, entre autres, une interview de Cassidy McGinley qui nous parle notamment de son rapport aux réseaux sociaux au sein de son parcours artistique. Place aux voix de Karl Froy, 130-01, DJ Pecorina, et bonne écoute.
J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais ado. En fait, j'étais fan de rock et de chansons japonaises, genre, des openings d'animé. Et j'ai commencé à faire de la guitare avec du coup des guitares en mode rock, chansons d'animé et tout ça. Et après, c'est vite arrivé à ce qu'on fasse un groupe de cold wave avec mes copaines de l'époque, quoi. Et après ça, du coup là, c'était pas encore de la musique électronique. Et puis là, j'ai commencé à faire de la musique électronique sur mon ordi en mode team garage band à fond, quoi. Et après là, j'ai pu avoir après Logic et tout ça, et j'ai commencé à produire à ce moment-là, mais genre il y a 5 ans à peu près. J'ai produit avant de mixer, mais j'ai commencé à faire de la musique avec d'autres gens, parce que aussi c'était un peu ce truc de groupe de rock à l'époque, d'ado, c'était super bien. Et après, petit à petit, en fait, faire de la musique électronique aussi, j'ai découvert ça tout seul parce que c'était pas ce que mes copains écoutaient, quoi. Après, j'ai commencé à faire des prods solo, quoi. Genre, avec toutes les influences que j'avais sur SoundCloud et quand j'ai découvert SoundCloud, en fait, aussi. Et que j'ai traîné dans des lieux où il y avait beaucoup de musique électronique et des musiques un peu de niche, en soi. Et des remixes de tubes des années 90-2000. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire des playlists et que j'ai commencé à produire de manière électronique, mais je n'étais pas encore DJ.
Je m'appelle Macha, 130-01. J'ai 26 ans. Je produis depuis un peu moins d'une dizaine d'années, mais vraiment par intermittence. Et je suis DJ depuis 2015. Ma pratique musicale, elle a démarré assez jeune parce que j'ai fait un peu de piano. Ma mère a tenté de m'inscrire au conservatoire pour faire du solfège, mais ça n'a pas marché parce que je ne suis pas du tout assez disciplinée pour ça. Du coup, après, j'ai fait de la guitare. J'ai fait de la guitare pendant longtemps. Et assez naturellement, au début du lycée, j'ai commencé à traîner sur pas mal de blogs musicaux grâce à Tumblr notamment. Et de fait, j'ai commencé à me constituer une petite culture en termes de musique électronique. De fil en aiguille, une fois le lycée terminé, le début des études, j'ai commencé à faire la fête. Et c'est comme ça que j'ai pu me plonger un peu plus directement dans la pratique de la musique électronique. Et j'avais des copaines qui avaient des contrôleurs. Et donc, d'abord en apéro, essayer de toucher les boutons. Et puis, progressivement, c'est arrivé jusqu'à ce que je m'achète mes premières platines, quelques mois plus tard. Et ensuite, j'ai fait partie d'un premier collectif à Lille. Et j'ai déménagé à Paris pour mon master, j'ai intégré un second collectif et j'ai pu jouer de plus en plus. Et ensuite, j'ai obtenu mon diplôme. On dirait que je parle d'un diplôme. On m'a proposé une résidence chez Rins France. Et donc depuis, je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai déménagé à Toulouse il y a 2 ans. Et j'ai assez vite, du coup, intégré le groupe Girlsess.
Autour de 2020, en tant que DJ Pecorina surtout, il y a eu un moment, mais je dirais 2019, j'étais en sociologie, j'étais en train de faire une licence de sociologie. C'était le moment où on faisait la sociologie du genre, ce que j'adore, et je lisais plein de livres. Et j'étais dans le mal total, tous les jours, je sortais dans la rue et je voyais tous les panneaux où il n'y avait pas du tout d'écriture inclusive et j'étais hyper vénère. Et en même temps, il y avait ce truc de genre, je traîne avec des icos, et quelques icas, mais vraiment très peu. et encore moins à ce moment-là. Et je me disais, c'est pas possible, il y a trop de mecs et tout, il faut que je reprenne le pouvoir et que je me mette à mixer, en fait, parce que il faut qu'il y ait des meufs qui mixent et du coup je vais commencer à le faire. Donc il y a ça qui m'a lancée. Et ensuite, je pense qu'il y a un truc simple, genre que j'oublie un peu parce qu'il y a ce truc de oui, t'es une meuf alors tu mixes. Mais en fait, j'adore la musique depuis toujours, depuis que je suis enfant, ça m'émerveille. Et j'écoute de la musique tous les jours, énormément de styles différents. Je télécharge de la musique depuis le CM2. Et aujourd'hui encore, j'ai téléchargé 3 albums. je suis à donf de ça. Tous mes amis, mes amitiés, mes gars, mes meufs, ça a été via la musique. C'était vraiment le truc qui me rapprochait des autres. Et que souvent, bah, c'était les mecs qui m'envoyaient leurs albums et leurs trucs qu'ils écoutaient et j'aimais trop. Et moi, je parlais jamais de ça, je faisais jamais écouter mes trucs. Jamais j'aurais diffusé, fait écouter à des gens ce que j'écoutais. Genre vraiment, j'avais blocage. Et il y a eu un moment de retournement de situation un peu où j'ai commencé à faire une résidence Aigre-Gore parce qu'ils avaient lancé un appel à projet. Et là, il se passait un truc un peu fou où j'ai commencé à... Enfin, même un peu avant, j'essayais de travailler sur moi pour montrer aux autres ce que j'écoutais. Et même s'ils me disaient que c'était nul, enfin, ça arrivait pas trop, mais j'avais pas envie que ça arrive. Et le fait de faire cette résidence, ça m'a aidé à me rendre compte que la musique que j'écoutais, elle me plaisait beaucoup à moi et qu'elle recevait... Enfin, ma manière de la transmettre, j'arrivais à toucher des gens. Et du coup, ça m'a aidé à la diffuser, quoi. Et je trouve que c'est le plus dur pour être DJ, c'est qu'il faut... Il faut être capable de faire écouter sa musique aux autres parce que c'est c'est ce qui se passe quand t'es DJ, tu fais écouter tes sons. Et ça m'avait bloqué pendant vraiment très 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 longtemps, je pense, de pas. Et pour sans doute plein de raisons. Mais du coup, une fois que j'ai débloqué ça, en fait, pour moi c'était évident d'être DJ parce que. Bah, autant partager toute la musique que je passe tout ce temps à écouter. Et après, de mon parcours musical, le DJ, je le différencie un peu de vraiment la production, la composition, etc. Même si j'aimerais, quand je fais des mix, mais plus avec Julia Anderson, genre mélanger vraiment des morceaux et refaire de la composition. Et j'avais fait un mix en 4 pistes où il y avait, enfin, où je recréais comme des morceaux, quoi. Donc c'est un peu de la compo. Mais je sais pas si c'est un blocus encore, mais je le mets en vrai dans une autre case. Et pour ça, j'ai fait du piano toute jeune, genre à 4 ans. Mais j'ai arrêté assez tôt, quoi, parce que j'avais un peu la flemme de l'assiduité. Mais bon, c'est un truc que je reprends maintenant, la musique et la prod, et petit à petit, et c'est un objectif, quoi, et quelque chose que j'aimerais faire, je pense, après.
Comme Julia, moi, je dissocie un peu le parcours musical, disons, acoustique. que j'ai pu avoir avant, enfin voilà, qui se plaçait un peu en dehors de la musique électronique parce que c'était quelque chose que je faisais assez en solitaire. J'avais pas de groupe de musique quand je faisais de la guitare, par exemple. Enfin, c'était vraiment très individuel comme manière de me projeter dedans. Et en revanche, oui, pour la musique électronique, enfin, c'est indéniable que je me suis construite avec les communautés virtuelles qui existent et j'ai fait partie de tous les groupes des chineurs, je crois, et genre de tous les autres groupes qui existaient. De techno, de trance, de breakbeat, de trucs comme ça, d'identification de son, enfin, tout ce qui est un peu popé au milieu des années 2010. Et pareil, j'ai fait plein de rencontres virtuelles de personnes qui sont devenues des amis réels par la suite. Et je pense que c'est ça, le fait de me sentir entourée et de pouvoir découvrir autant de musique, ça m'a d'autant plus passionnée parce qu'il y a vraiment une notion de partage. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ça m'arrive quelques fois par an de recevoir des notifications de gens qui likent des posts que j'ai postés sur les groupes des chineurs, genre en 2015. Et je suis là genre, oh waouh, ah, ça remonte à il y a longtemps, ça fait trop bizarre, je me prends un petit coup de vieux. Mais en même temps, c'est quelque chose que je fais plus du tout aujourd'hui, par exemple. Enfin, j'ai plus de groupe virtuel auquel j'appartiens. Enfin, de toute façon, depuis la fin de la chinerie, moi, j'avais commencé à prendre des distances avec ça avant qu'il y ait la clôture officielle, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le partage musical, ça se produit surtout dans mes groupes de potes, par affinité, et aussi les personnes qui partagent des esthétiques musicales similaires aux miennes. Puis après, bah, tout le taf de digging, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais plutôt en solitaire maintenant.
Mes liens avec les gens dans la musique, ça s'est fait surtout sur Internet. Parce que le moment où j'ai commencé à produire, c'était juste avant le confinement, donc le Covid. Un jour, il y a un ami à moi qui s'appelle Charlie, alias Dr. Draken, qui m'a invité à une fête en ligne qui s'appelait la Safe Cloud Rave. Et c'est à ce moment-là que moi, du coup, j'ai pu montrer déjà mon premier DJ set et que les gens aussi ont pu écouter genre mes prods. Et après cette fête en ligne, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi et j'ai pu rencontrer beaucoup de gens après, enfin post-confinement quoi, et créer des liens hyper forts et faire des trucs ensemble quoi. Je faisais que de la musique électronique principalement et il y avait quand même des influences rock, animé, genre jeux vidéo un peu, mais c'était de la musique électronique principalement. Ouais. Là. Je pense à un son que j'ai fait, c'est un peu le plus connu, qui s'appelle Beast Diary. Et c'est vraiment un son qui illustre ma passion pour le jeu Castlevania. À l'époque, j'étais vraiment en mode musique sur les jeux vidéo. Et c'est un des premiers sons que j'ai sorti. Il est un peu crado, quoi, mais ça illustre vraiment ça. Et puis, c'était aussi une manière de lier musique et internet culture que j'avais vachement à l'époque et que j'ai eu beaucoup dans ma vie.
You.
J'intègre tous ces petits effets d'animé, de jeux vidéo et tout dans mes sons à travers des samples et surtout des univers super précis. Genre, pendant hyper longtemps, j'ai beaucoup fait mes sons sur un peu des univers post-apo dans des jeux vidéo, donc des trucs genre qui passent de... Castlevania, c'est pas trop post-apo, mais des trucs un peu comme ça, ou des trucs de ruines beaucoup, où il y a du vide et il y a un peu des choses figées. Et après, à partir de ce moment-là, faire parler des personnages qui sont dans ces jeux-là, ou prendre des samples, je sais pas, d'épées ou de cailloux, de pas, qui, quand le personnage marche, et faire des sons avec ça. Mais c'était surtout aussi, enfin, ma musique, quand je produis, j'ai vraiment une histoire en tête, genre une trame narrative, et c'est ça découlait beaucoup, et ça découle encore maintenant, mais ça a plus la même forme, d'histoires de jeux vidéo que je transformais, quoi. Cette trame narrative, je l'inclus beaucoup dans ma pratique artistique aussi. Là, je suis en train d'écrire mon mémoire et c'est une fiction aussi. Du coup, là, je raconte un peu un truc, mais du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que je faisais il y a 4 ans, où justement, j'étais plus dans un truc de chelou, de romantiser un peu ces fictions post-apo, d'en trouver du beau dans ça un peu. Alors que là, mon mémoire, il traite un peu de l'inverse, de pourquoi justement... beaucoup d'entre nous, dans notre génération, on romantise et fabule la fin du monde, entre guillemets, quoi. Et en gros, ils traitent de ça. Et c'est comme ça aussi que j'intègre beaucoup la narration dans mon travail, quoi.
Avec DJ Pecorina, c'est plus la art dance, art trans, psy trans, art techno, techno bass, sexy club. Ouais, Jersey club, footwork... Footwork, ça fait un peu le pont avec Julie Anderson, qui est la partie festive de Julie Anderson. Et avec Julie Anderson, du coup, il y a la pop, l'ambiante, le classical, l'ambiante pop, le folk, le psychédélique, le rock, toutes les sortes de pop. Genre les pop instrumentales, les pop électroniques, et les musiques expérimentales. Tellement de musique. Je dirais que Julie Anderson, c'est des mix de musique de bande originale de vie. De bande originale de dessins animés. Et DJ Pecorina, c'est l'ultra dance, c'est le plaisir total. Je me suis dit un truc l'autre jour, c'était que DJ Pecorina, c'était le plaisir et Julie Anderson, c'était la beauté. Je le vois plutôt comme ça. Que des ambiances ou des. Je pense que vraiment, avec Julie Anderson, dans mes mix, je me dis, ah, je cherche vraiment la recherche de beauté dans la musique, les musiques que je trouve magnifiques et belles. Et qui font penser à, je sais pas, à la nature. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté ambiante et pop, ou de raconter des histoires qui se terminent bien ou pas, avec des sentiments, des émotions, c'est intense. Et avec Pecorina, c'est vraiment parce que j'ai trop besoin de let it go et de jouer de la musique. Et donc c'est des musiques qui me procurent un effet hyper intense aussi et que j'ai envie de repartager aux autres. Et du coup, je dirais quand même que depuis le début de DJ Pecorina, ça a toujours été des musiques orientées sur le plaisir. Et voilà. Après, la psytrance, par exemple, c'est assez récent. Avant, j'en mettais moins. Et j'étais peut-être un peu plus gabber et maintenant un peu moins. Mais en fait, ça dépend, ça reviendra. Enfin, je me concentre pas trop sur les genres de musique, quoi. Plus sur ce que j'écoute dans mon oreille, ce que ça me fait ressentir. Et c'est là que je vais le mettre dans un projet ou dans un autre. Après, avec Julie Anderson, je fais des spéciales aussi. Celui que j'ai fait pour NTS, c'est un spécial orchestral pop. Et l'orchestral pop, en français, pop baroque, c'est un genre de musique des années 60-70 qui relie genre, la musique pop, genre les Carpenters, etc., mais avec vraiment des arrangements orchestraux avec des violons, etc. Et ce que Wayous Blood fait aujourd'hui se rattache un peu à ça. Et c'est un genre de musique que j'adore. Et du coup, j'avais fait un spécial là-dessus, mais j'avais fait aussi un spécial footwork. J'avais fait un spécial psychédélique rock, qui est la première musique que j'ai écoutée et adorée. J'aimerais bien parler d'un morceau que j'ai coproduit, on va dire, avec Adorable Steak 96. Il y a mon amie Clara Lemer, qui a fait un album, peut-être il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelle Hier à la plage. Et elle a proposé de faire une compilation de remix. Et on s'est dit qu'on était chaudes d'en faire un à deux. Et du coup, on a fait un remix de la cadence des éléphants. Et il y a un moment que j'aime beaucoup dans le morceau, qui est un espèce de passage psy-trance avec un train au loin. J'ai là, oui, je veux qu'il y ait cette espèce d'effet de train là. Et vraiment, à chaque fois que le passage arrive et que j'entends le wouah, je suis là, oui. Et après, les klaxons, les éléphants aussi. Ça m'a fait toujours délirer d'utiliser des samples d'animaux. Et du coup, dans la cadence des éléphants, il y a des samples d'éléphants, même si on les reconnaît plus des fois, mais qui font des kicks. Enfin, c'est trop mignon, j'aime trop imaginer qu'il y ait des éléphants qui dansent et qui font la musique, qui sont là pendant le morceau. Voilà, ça me plaît beaucoup et j'espère que ça s'entend et que ça se reçoit par le public qui l'entend.
Je dois courir, je n'ai pas le temps de marcher lentement.
J'ai deux aspects dans ma pratique qui peuvent justifier ma présence sur les réseaux sociaux. D'une part, parce que la musique, le mix, c'est vraiment ma passion. C'est un des trucs que j'aime le plus faire dans ma vie. Et ça me procure énormément de plaisir. Et donc, bah oui, j'ai envie d'avoir plus de dates parce que j'ai envie d'avoir plus de dopamine et de sérotonine naturelle dans mon cerveau. Et d'autre part, pour la raison financière, parce que ben voilà quoi, je suis artiste, mon taf salarié, c'est un taf précaire. j'ai besoin d'argent. Donc plus je suis visible, plus j'ai de booking, plus j'ai de dopamine et de sérotonine et plus j'ai d'argent. Donc moi j'ai un peu ce chemin de pensée là, mais j'ai boudé hein, pendant des années, j'avais les réseaux sociaux et j'avais un discours assez cynique là-dessus. Mais depuis que mon Instagram est en public et que je fais des publications après chaque soirée avec des vidéos dedans et que je mets des photos de moi en story pour essayer de draguer un peu l'algorithme, et bah, je me suis quand même pris 500 followers en quelques mois quoi. Donc c'est que ça marche. Il y a le revers de médaille où en fait c'est hyper méga relou de passer autant de temps sur ces réseaux sociaux. Et moi aussi, je ressens quand même une dissonance à me mettre en scène. Enfin, alors que, bah voilà, quoi, encore une fois, c'est une mise en scène et les gens ne voient pas trop genre, la personne que je suis réellement. Et j'ai pas envie que ça porte à confusion. Mais en même temps, bah, voilà, c'est aussi le jeu, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, vouloir être anticapitaliste dans une société qui te pousse tout le temps à consommer et en vivant dans un milieu urbain, tu vois. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire la paix aussi avec nos paradoxes, parce que sinon, juste, tu finis en dépression, et la dépression, c'est pas très chouette. Voilà.
Je pense que ça me rend triste que ce soit une réalité, I guess. Mais en même temps, de base, je trouve que c'est un peu rigolo, Instagram, faire des posts, des stories. Il y a un peu un truc ludique qui me plaisait là-dedans. Et qui me plaît de moins en moins en fait. Moi j'ai plus l'impression qu'avant j'y jouais plus. Enfin, d'être sur internet, moi ça m'a toujours plus aidé qu'autour de moi, parce que les personnes qui kiffent ce que je fais, elles sont loin de moi, j'ai l'impression. Du coup, j'ai toujours partagé depuis le lycée, je faisais de la photo à ce moment-là surtout, et je postais toutes mes photos sur internet et c'était l'endroit où j'avais des retours. Du coup, j'ai continué à faire ça parce que pour moi c'est le meilleur endroit où présenter mon travail, c'est internet. Et donc j'ai toujours fait ça, quel que soit le taf que je fasse. Et là du coup c'est le DJ depuis un moment, mais genre c'est pas que ça. Sur mon Instagram, je suis pluridisciplinaire, photographe, artiste, et plein d'autres métiers, présente tout le travail, et je trouve que c'est encore plus difficile que juste si j'étais DJ. Et de là vient une confusion, je pense, pour les personnes, de qu'est-ce qu'elle fait réellement. En plus j'ai deux projets de mix, de DJ. Du coup je trouve que c'est ça moi mon blocage avec les réseaux, c'est que même si je donne tout ce que j'ai, il y aura toujours une confusion pour les gens, parce qu'en fait sur ton Instagram il faut que tu fasses juste une chose, et même dans la vie en fait il faut que t'en fasses qu'une, et moi j'en fais plusieurs, et du coup j'ai l'impression que peu importe, je nourris l'algorithme de la manière qu'il veut, j'aurai jamais le résultat escompté. Du coup je continue à faire comme je peux quoi, parce que bah voilà, et autant le prendre en s'amusant. Mais des fois, oui, c'est un peu dur, je trouve. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi, les dates et le public. Et souvent, mon public ne fait pas trop de vidéos de moi, je trouve, mais je sais pas, ils me disent vraiment des messages qui me font chaud au cœur, où il y a des histoires vraiment drôles. Et ça compte vraiment pour moi, parce que c'est réel, et je l'ai vu, et je l'ai senti. Et je me dis, ok, bah, il s'est passé ça. Voilà, peut-être que je ne suis pas la DJ la plus fame, mais j'ai vraiment vécu ce moment qui m'a procuré aussi beaucoup de dopamine, comme disait Macha.
Ma résidence chez Rins, ça a démarré parce que j'ai rencontré Laurent, qui était le programmateur à l'époque, je crois en début 2018, il me semble, parce qu'on l'avait invité à une table ronde organisée par mon ancien collectif sur les médias dans la musique électronique. Et il m'avait proposé de venir mixer sur la radio. Et ensuite... ben moi, je voulais avoir mon émission là-dessus, mais je ne la centrais pas forcément sur le DJing de prime abord, puisque ma première année de résidence, c'était une émission qui s'appelait New East Sound et qui avait pour vocation de mettre en lumière les scènes électroniques des anciens pays de l'URSS. Donc, il y en a 15 au total aujourd'hui. Et parce que ben, moi-même, je suis née en Ouzbékistan, un ancien pays de l'URSS, et que... à cette époque-là, j'avais pris connaissance du premier festival de musique électronique qui se produisait là-bas, et j'étais là, mais en fait, c'est un truc de fou. En fait, il y a des scènes alternatives dans ces pays, et personne n'est au courant. Personne n'est au courant, et je prenais beaucoup de plaisir à découvrir tout ça, et je me suis dit que j'avais envie de le rendre visible sur une radio avec une plutôt grosse portée comme Rins. Donc, au début, c'était comme ça, et puis ensuite, la deuxième année, ils m'ont proposé d'être résidente en tant que DJ. Et donc depuis, j'ai une résidence mensuelle, j'ai une émission par mois. En fait, la majorité de mes émissions, j'avais eu envie d'inviter des personnes minorisées de genre. J'ai genre deux émissions, je pense, où j'ai invité des mecs. Mais voilà, le reste du temps, c'était quand même des personnes minorisées de genre. Parce que bah, pareil, je me disais, ok, en fait, j'ai accès à cette plateforme de ouf. Bah, j'ai envie de faire croquer mes potes, j'ai envie de faire croquer des gens qui sont pas connus, des gens qui viennent d'autres pays. Et puis surtout pas des mecs, parce que en fait, moi, la musique que j'écoute, enfin dans la bass... Après, je parle pas, je mixe aussi beaucoup d'ambient et tout, mais dans la bass, en tout cas, c'est quand même très très masculin en fait comme milieu. Et du coup, j'étais là, mais je supporterais pas la dissonance de jouer des musiques produites par des hommes et derrière de pas du tout mettre en valeur le taf de DJ ou de rares productrices dans ce style musical là. Avant le Covid, en fait, faire partie de Rins, pour moi, c'était... Ben voilà, enfin, j'habitais à Paris, j'allais au studio pour enregistrer mes émissions, j'avais vraiment des liens avec les personnes qui travaillaient pour la radio. Il y avait de l'événementiel, donc ça m'a aussi permis en fait, d'être mise en avant par des événements organisés par Rins. Après, il y a eu le confinement, j'ai déménagé à Toulouse. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un rapport complètement différent, où je vois plus Rins comme... une sorte de vitrine très cool, quoi. Une vitrine en plein centre-ville de la musique électronique. Et moi, j'ai mes émissions dessus. Et que je sois sur Rins ou sur une autre radio, je ne changerai pas le contenu de mes émissions. Mais c'est vrai que ça apporte quand même une légitimité. Quand même, voilà. Moi, j'étais très, très fière de débarrer ma résidence sur Rins. Et derrière, une visibilité qui est assez conséquente parce que c'est une référence. Moi, là, je pense à un son que j'ai passé à la Croule. C'est un remix de Tonight, T-N-G-H-T, enfin Tonight sont les voyelles, quoi. Un morceau qui s'appelle Higher Ground, et le remix s'est fait par SL8R. Slater. Et en fait, je l'ai adoré ce morceau parce que Tonight, c'est un peu toute ma phase musique trap de 2012 à 2014, et c'est un peu mes premiers pas dans la pratique festive musicale parce que j'ai découvert ça en festival à I Love Techno en Belgique et j'adorais trop la trap. Je trouvais que les rythmes étaient incroyables, que c'était saccadé, qu'il y avait des grosses basses, des gros drops, et j'ai adoré Tonight, du coup, qui est le projet de Hudson Moa et Lunis. Et du coup, en fait, j'ai réécouté avant d'aller à la Croule. Je me suis dit, mais en fait, j'ai adoré ces morceaux quand j'étais plus jeune. Je les rejouerai pas forcément là tel quel, même si je l'ai fait. Enfin, mon morceau d'introduction à la Croule, c'était un morceau de Singing Oak qui fait partie de cette époque-là, quoi. Et en fait, j'ai tapé, du coup, ces artistes-là que j'écoutais il y a 10 ans en tapant remix derrière. Et j'ai eu de très bonnes surprises parce que j'ai trouvé des remixes très bass music, enfin, très de la musique que je joue actuellement. Des morceaux que j'écoutais il y a 10 ans, donc j'étais là, mais c'est la rencontre des deux meilleurs mondes en fait. C'est une manière de faire la paix entre mon moi adolescent et mon moi actuel. Reaching for high, 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 reaching for high
for high, reaching for high, reaching for high, reaching for high, reaching for higher bands. Reaching for high, 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 reaching for higher bands. Reaching for high, 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 reaching for higher bands. Reaching for high, 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 reaching for higher bands. Reaching for high, 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 reaching for higher bands. Reaching for high, 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 reaching for high,
La Girls' Sess, ça a commencé après le confinement en 2020. Il y a Mélocotone, Juliette, qui a écrit à plusieurs meufs de Toulouse pour leur proposer de se retrouver dans un lieu où il y aurait du matériel pour échanger sur la musique électronique et les pratiques. Et je suis allée à la première séance et ça m'a tout de suite trop plu, quoi. Déjà, bon, parce que je revoyais un peu des meufs que je voyais de loin, mais du coup, on a pu creuser un peu plus, échanger, et j'ai pu, et par la suite, en rencontrer d'autres. Et c'était trop bien d'apprendre comment ça marchait des platines. Enfin, moi, j'en avais jamais vu. J'avais pas de contrôleur chez moi, j'avais rien, j'avais juste mon ordi, quoi. Et on a vu les branchements. Et on a commencé à s'entraîner, à voir Recordbox, les clés USB, les exportations, enfin vraiment plein de choses, voir aussi des contrôleurs et organiser des fêtes où on mixait, où on s'entraînait, etc. Et c'était vraiment trop bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans le début de ma pratique DJ live, quoi, genre de pas juste faire des podcasts chez moi, quoi, mais vraiment de mixer en dehors. Et puis après, ça a évolué un petit peu, ça a grandi. Le groupe, il est flexible. N'est pas un collectif à proprement parler, en plus un rassemblement de personnes. Et Macha, elle a rejoint un ou deux ans après, je sais plus trop. Et ça a un peu évolué. On a commencé à faire une résidence sur Egregore mensuelle. Et aussi, on a lancé un Instagram. Et là, on a commencé à avoir pas mal de dates en crew. Enfin, les gens sont venus nous demander qu'on vienne mixer. Je pense un peu parce qu'on est des meufs, qu'ils ont besoin de mettre ça dans leur quota. Et souvent, les propositions sont pas très respectueuses, je trouve. Les personnes n'écoutent pas notre musique, elles savent pas ce qu'on fait, elles nous demandent de faire des trucs qu'on fait pas. Elles nous posent vraiment des questions absurdes, mais des fois, ça se passe bien aussi. Ça a permis de visibiliser la Girls' Sess, qui est donc vraiment un atelier de mix en non-mixité, parce que c'est un truc qu'elle dit souvent, qu'on est là, mais on se connaît pas, et on est très isolés. Et du coup, effectivement, cet atelier, il a permis de nous réunir. Et je pense, de fait, effectivement, prendre une place sur la scène locale, c'est sûr. Surtout depuis l'Instagram et la résidence Egregore. Parce qu'avant, on était quand même assez secret, assez, on pourrait dire, punk d'une certaine manière. Le principe, c'est de se retrouver régulièrement autour de platines ou quoi, pour échanger, quoi. C'est vraiment ça, l'âme... du truc. Il y a aussi un Discord qui est ouvert à toutes les personnes non mexis de Toulouse, d'Occitanie. Si vous écoutez, que vous êtes dans ce cas, vous pouvez venir, même si vous avez jamais mixé ou quoi, c'est pas du tout ça qui compte. C'est plus le fait d'être ensemble, d'échanger, de se poser des questions. voilà, c'est assez bienveillant comme endroit.
Bah, le collectif, ça apporte toujours du bien, quoi. J'ai l'impression, en tout cas dans la musique et dans le milieu de la musique, surtout si c'est pour établir un endroit safe. Et les Girls' par exemple, ça m'a hyper décomplexée et j'ai appris mille trucs, quoi, là-bas, en termes de technique, mais aussi, enfin, de DJ, quoi, avec des machines, mais aussi en termes d'administratif et de social, quoi, genre, surtout. La force aussi, c'est surtout de faire de la musique ensemble, pouvoir après coup se retrouver où on veut et organiser tout ce qu'on veut sans qu'il y ait genre des personnes qui profitent de quoi que ce soit. Et ça se relie beaucoup, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collectifs un peu partout qui font ça, quoi. Et c'est grave nécessaire et je suis trop contente d'avoir pu et de pouvoir participer à ce genre de trucs. Alors, j'ai monté un projet de label, il s'appelle XPT Music, avec Kimberley, Talita et Naomi. Il y a Kimberley qui est une artiste DJ, productrice, Talita aussi productrice DJ, et Naomi, elle s'occupe de la compta un peu de XPT, des dossiers et tout. En gros, on a monté le projet il y a un an. Et on a commencé à faire beaucoup de recherches parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire créer un label, quoi, en gros. Pareil, hein, en mode autodidacte life, on a cherché sur Internet, on a fait des démarches administratives pour faire les choses de manière carrée et légale, quoi, pour monter ce label-là, pour aussi pouvoir inviter des artistes autant connus que des artistes qui ont moins d'écoute. On a sorti la première compile en février qui s'appelle The World Blurs. Elle est sur toutes les plateformes de musique que vous connaissez. Sur cette compile, il y a 30 artistes et il y a autant de la musique qu'on va appeler douce, quoi, ambiante, en passant par des trucs plus reggaeton, pop, pour aller à de la hardcore. Et on a décidé aussi de ne pas inclure de mecs cis hétéros dedans parce qu'ils sont beaucoup plus représentés que nous dans la musique électronique. Et qu'on a besoin un peu d'espace et de faire un espace plus safe et d'inviter des artistes. Bah, du coup, là, on organise plusieurs soirées et plusieurs événements où on invite des artistes et c'est vraiment pas la même ambiance que quand d'autres personnes pourraient nous inviter, quoi. Ça, c'est un peu une force et on est trop fiers d'avoir fait ce label. On a fait une résidence sur le plateau à Fossil Futur. Quand on a fait la résidence, on s'est retrouvés avec Kim, Naya Kombari qui est photographe, Maxime Lizer qui est artiste et DJ, Esteban González qui est graphiste et DJ aussi, Mario Mels qui est tatoueuse et dessinatrice. Il y a Naomi aussi qui était de passage et en fait, tout ensemble, on a fait une résidence pour concevoir la conception du jeu vidéo qui va avec la compile The World Wars qui va sortir il y a dans pas longtemps. En fait, on s'est mis une semaine de travail où on s'est tous mis d'accord sur un scénario et on faisait des allers-retours sur comment la compile pourrait marcher avec une sorte de trame narrative et d'univers un peu. On s'était un peu basé sur une sorte de thématique entre l'aube et le crépuscule, quoi. C'est des trucs en mode non dans la binarité de jour et nuit, un truc un peu entre les deux, super genre mystique, quoi. Et chaque personne travaillait un peu dans son coin, revenait. Et là, il y avait beaucoup d'échanges. Et puis aussi avec Kim, on travaillait la musique et l'ordre de toutes les tracks qui allaient ensemble. Et du coup, on a vraiment construit toute la cabane de genre autant l'album que un peu l'atmosphère et toute l'histoire qu'il y avait derrière et donner de l'âme un peu à chaque track. On a choisi chaque track pour un des personnages et on a pu genre établir des liens entre les tracks de chaque artiste et comme ça les tracks pouvaient se parler, quoi. C'est la première fois que je me retrouve dans un projet collectif qui mélange autant gestion, musique, jeux vidéo et tout ça. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et surtout, la répartition des tâches est assez compliquée parce qu'au début, on ne comprenait pas trop aussi comment se répartir les tâches puisqu'on était toutes un peu en mode, bah, on est autant musicienne que, enfin, on est un peu sur le même niveau, quoi. Et par exemple, là, le jeu vidéo, c'est moi qui le code, mais je n'ai jamais appris à coder ni quoi que ce soit. Du coup, c'était vraiment qui choisit, en fait, de faire quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, c'est des initiatives que les gens prennent, quoi, et les gens dans le label prennent. Et depuis, en fait, qu'il y a eu des initiatives prises, il y a un peu des rôles qui ont été mis et on a capté qui aime faire quoi. Et à partir de ce moment-là, du coup, là, le travail, il est mieux réparti et ça avance plus vite, quoi.
Je me disais qu'il y avait un peu un crossover avec du coup la Krul, un morceau que j'ai joué là-bas, qui s'appelle Vodka Red Bull, produit par Swan Meat, qui est une productrice allemande, je crois, ou en tout cas basée en Allemagne. Et je voulais parler de lui parce que du coup il est sorti sur Explity Records, qui est un label fondé par Karl Froy et Kimberled, et Karl Froy était aussi à la Krul. Et en fait, la jeunesse de ce morceau, c'est qu'elles me l'ont envoyé avant sa sortie pour que j'écrive une genre de description dessus pour la presse. Et du coup, je l'ai écouté avant qu'il sorte et j'avais vraiment trop aimé le morceau. Et je l'écoutais chez moi avec mon casque et je me disais, ok, qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce que je vois dans ma tête, comment je vais le décrire. Et j'avais vraiment trop hâte de le jouer, quoi. Et du coup, quand il est enfin sorti, ben, je l'ai mis dans mon mix. Et... voilà, je suis un peu hypée de pouvoir jouer ce morceau maintenant.
Thank you.
On a fait notre release party au Doc à Paris où on a invité 7 artistes et c'était beaucoup d'organisation et on s'est dit c'est beaucoup 7 artistes pour une première soirée. Ça, on le refera quand on sera plus gainé quoi, sur ça. Après, on est allé à Gand en Belgique. On a travaillé avec le collectif Burenheider qui sont un collectif de meufs DJ et productrices flamandes. Après, on est allé à Marseille, à la Meta, et on a fait aussi une soirée qui s'est super bien passée, c'était trop bien, bon mood et tout. On a aussi fait une collab avec Girls Don't Cry à Toulouse, meilleur public, le collectif, quoi, il s'est méga ressenti en fait, genre ce truc de donner de la musique à pas forcément un public visé mais le public genre c'est j'avais jamais vu ça quoi, c'était vraiment un public de personnes queer militantes genre méga chaud de danser et là toute la net alors que tout le monde était fatigué de toutes les semaines après le 49-3 quoi et c'était vraiment ouf de pouvoir faire ça. Et là, après, on tourne un peu en France jusqu'en juin. Et là, normalement, en août, on fait un petit truc secret en Europe de l'Est.
Le 12 mai, je vais jouer en B2B avec Adorable Steak 96 dans une soirée à Toulouse, dans un local un peu officieuse. DM si vous voulez les infos. Et je suis contente parce qu'on avait fait un B2B avec Adorable Steak 96 il y a... je crois en 2019, où, enfin, c'était un peu la première fois que je faisais ça, et c'était au même endroit.
Le 13 mai, à Toulouse, on organise une soirée avec d'autres DJ qui s'appelle Caprice Revenge Club. Ce sera à Le Bohème, et j'y joue avec DJ Cross the Fingers, 6AM et Queen Paramount. Et en fait, la genèse de cette soirée, elle est assez rigolote, parce qu'à la base, on avait été toutes les quatre bookées à une soirée par un mec qui nous a grave mansplainé, gaslighté. Enfin, franchement, il a un peu coché toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire quand tu es un homme et que tu bookes des personnes minorisées de genre en soirée. Moi, je me suis barrée et les filles ont suivi derrière. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va organiser notre propre soirée avec nos propres règles. Et du coup, bah, c'est ce qu'on fait le 13 mai. Voilà. Et sinon, je joue à Bordeaux le 27 mai avec Melo Cotton, Mackie Sound System. Et ensuite, bah ouais, j'ai pas mal de dates cet été. Je joue à plusieurs festivals, à la fête de la musique. Et voilà, il y a peut-être des choses qui vont se caler d'ici là. Là, j'ai terminé un son il y a quelques jours où c'est un remix de Cardi B. Quoi. J'ai repris l'a cappella, je l'ai coupé, j'ai mis des gros breaks. Et du coup, bah, c'est Cardi B, mais avec la musique que je joue aujourd'hui. Et c'est hyper plaisant.
Oh. it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck, huh? I can make the party hot. I can make your body rock. Bitches say they fucking with me just inside they party hot.
C'était La Mix Autonome, l'émission qui explore les genres musicaux dans le trouble. Un épisode 5 autour des voix et morceaux choisis par Carl Froy, 130 Zéro et DJ Pecorino.